BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, en direct. Rebonsoir, Audrey.
Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous.
Plein de choses, comme tous les soirs, évidemment, à vous raconter. D'abord, l'Europe qui brainstorme du côté de Bruxelles sur son manque de compétitivité face à l'Amérique, notamment. C'est pas un sujet nouveau, mais enfin, on brainstorm. Et donc, on va vous raconter ça dans un instant dans le journal. Journal qui sera suivi, bien sûr, du retour de nos experts dans un quart d'heure.
Et oui, des experts à qui on posera cette question presque philosophique. Qu'est-ce qu'un salaire décent ? Oui, c'est le patron de Michelin qui l'a dit ce matin. Pour lui, le SMIC en France n'est pas suffisant. Et donc, il veut désormais assurer que tous ses salariés à travers le monde bénéficient d'un salaire donc décent et suffisant. On parlera aussi de cette taxe minimale sur les milliardaires. Oui, puisque la France et le Brésil font leurs propositions en ce moment même à Washington.
Alors, qui sera avec nous pour parler de tout ça, entre autres, dans un quart d'heure, l'économiste Pascal Delima va revenir. Bien sûr, le patron de Meilleur Taux, Guillaume Autier, sera là. Et puis l'ancien rédacteur en chef d'Alternative Économique, Guillaume Duval. Voilà le casting de ce soir.
Le choc. Le choc, oui, comme tous les soirs.
À tout de suite.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est un constat unanimement partagé, l'Europe est à la traîne face aux États-Unis dans bien des domaines. Le sommet européen qui vient de débuter à Bruxelles va se pencher sur un gros rapport que vient de remettre l'ancien patron du Conseil italien, Enrico Letta. Rapport qui dit clairement l'Europe doit mobiliser beaucoup plus d'argent et notamment dans trois domaines, l'environnement, la finance et le numérique. Astrée Olivier nous raconte ça.
Lancer une garantie verte européenne pour investir dans l'environnement, créer un marché unique de l'énergie en reliant les réseaux de transport ou réduire le nombre d'opérateurs télécoms au sein de l'Union européenne. Voilà les mesures concrètes présentées par Enrico Letta. Pour l'ancien Premier ministre italien, il faut aller plus loin pour financer les projets européens avec l'unification des marchés de capitaux.
Nous avons besoin de mettre ensemble le privé, l'argent public, le national et l'européen. Ce que j'ai entendu dans mon tour d'Europe, beaucoup de monde m'a dit « moi je ne veux pas payer pour tout ça ». Il faut qu'il y ait une solution qui soit une solution commune.
Soutenu par la France, le cadre financier des marchés uniques de capitaux permettrait, selon Emmanuel Macron, de mobiliser au mieux l'épargne européenne.
L'Europe a plus d'épargne que les États-Unis d'Amérique. Mais cette épargne se concentre aujourd'hui dans certaines régions et auprès de certains acteurs. Elle n'est pas bien allouée. Et chaque année, c'est environ 300 milliards d'euros de cette épargne qui vont financer l'économie américaine.
Reste à convaincre les autres membres de l'Union européenne. Une douzaine de pays redoutent ce nouvel échelon qui pourrait limiter la compétitivité de leur propre secteur financier. Mais le président français est confiant. Il a préféré insister sur les points de convergence et le consensus obtenu entre les pays.
Voilà l'Europe qui brainstorm sur sa compétitivité. Et alors, à ceux qui sont nombreux, qui se demandent vraiment si la réindustrialisation est en marche, on a cette étude qui est sortie aujourd'hui, étude de Capgemini, qui a interrogé 1300 responsables de grands groupes industriels. Ce qu'ils nous disent, c'est que oui, les choses bougent aux États-Unis, mais quand même aussi en Europe. Jean-Baptiste Huette.
C'est une véritable lame de fond de réindustrialisation qui parcourt l'Europe et les États-Unis. Depuis la fin du Covid, observe Capgemini dans son étude, les projets pullulent. Des relocalisations industrielles à domicile ou dans les pays voisins. En fait, un vaste mouvement de démondialisation, très largement tiré par le souci des industriels de maîtriser la supply chain et d'atténuer autant que possible les retombées des tensions géopolitiques. Dans le détail, les projets d'investissement en France entre 2023 et 2026 doivent s'élever à 340 milliards de dollars contre 673 milliards en Allemagne et 1400 milliards aux États-Unis. Et pourtant, rapporté au PIB de chaque pays, c'est bien la France qui tire son épingle du jeu, explique Capgemini. Son effort d'investissement est trois fois supérieur à celui des États-Unis. Ceci malgré l'Inflation Reduction Act américain, véritable pompe aspirante. Une dynamique industrielle Europe-États-Unis puissante donc, qui au total, entre 2024 et 2027, devrait générer 3 400 milliards de dollars d'investissement.
Voilà, la réindustrialisation est bien en marche d'après cette étude de Capgemini. Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business. Alors justement, on a parlé Europe aujourd'hui au siège du MEDEF à Paris. Figurez-vous que l'instance patronale auditionnait les têtes de liste aux élections européennes. Alors posons des questions très simples. Comment feriez-vous pour que l'Europe soit demain plus simple à fonctionner et plus compétitive, justement. Valentin Gris nous raconte ce qui s'est dit aujourd'hui à Paris.
Les 8 candidats se sont succédés pendant 3 heures de débat sur l'avenir de l'Union. Ils ont d'abord introduit leur programme en quelques mots, Manon Aubry saisissant l'occasion de rappeler la crédibilité accordée à LFI par l'ancien patron du MEDEF, référence aux mots de Geoffroy Roux-de-Bézieux en 2022 sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Jordan Bardella a lui évoqué une Europe devenue homme malade, quand Raphaël Glucksmann insistait sur la volonté de soustraire le continent à ses dépendances énergétiques. 3 thèmes ensuite pour des passes d'armes, le Green Deal d'abord, faut-il y revenir, mais aussi ensuite, l'avenir des accords commerciaux après les échecs du CETA et du Mercosur. Et enfin, la réindustrialisation quand Chine et États-Unis accélèrent. Quelques adhérents ont enfin fini par interroger les candidats sur la hausse inexorable des prix de l'énergie ou encore le retard de la tech européenne. Le MEDEF clôt avec ce débat une couverture extensive de ces élections, avec un Tour de France impliquant les 119 bureaux locaux et recueillant 30 propositions formulées en mars. Parmi elles, la simplification des textes, le renforcement d'Erasmus pour les apprentis ou encore un fonds souverain pour financer l'industrie européenne à hauteur de 200 milliards d'euros.
Valentin Gris avec nous sur BFM Business, 19h06 dans l'actualité des entreprises. C'est un dossier que le gouvernement suit de très près, le dossier Biogarant, groupe qui pèse un tiers du marché français des médicaments génériques. Il se trouve qu'il y a des rumeurs de presse qui ont circulé ces dernières heures selon laquelle Servier, la maison mère, serait en passe de vendre, sauf que le gouvernement a fait savoir aujourd'hui qu'il pourrait activer la procédure dite IEF, investissement étranger en France. L'État est très vigilant. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Roland Lescure, le ministre délégué à l'industrie. Et puis je vous le disais, ça s'agit de chez Total Energy. Bonsoir Mathieu Pechberti. Ça s'agit de parce qu'une poignée d'actionnaires minoritaires veulent dissocier les fonctions de président et de directeur général. C'est Patrick Pouyanet qui cumule tout ça aujourd'hui, Mathieu, mais eux veulent remettre en cause cet équilibre. C'est ça l'idée, fondamentalement. Hein.
Oui, exactement. Alors effectivement, ces fonds, ces petits fonds actionnaires ne pèsent pas grand-chose. Hein. Moins d'1% du capital. Donc dans une société, c'est pas lourd. Mais on le sentait un petit peu venir ces dernières années sur les critiques à l'encontre des pleins pouvoirs donnés à Patrick Pouyanné. Et c'est vrai que sur des capitalisations boursières aussi importantes, hein, c'est environ 160 milliards d'euros à la Bourse de Paris, Total Energy, c'est assez rare d'avoir un seul PDG. En général, il y a une dissociation et donc un directeur général et un président. Bon, il y a extrêmement peu de chances, voire pas du tout, que cette résolution passe à la prochaine Assemblée Générale, hein, qui aura lieu à la fin du mois de mai. Le groupe Total a déjà dit il y a quelques mois qu'il souhaitait que Patrick Pouyanné reste à son poste encore pendant 3 ans, puisque son mandat est renouvelé là dans un mois. Ouais. Qu'il souhaitait aussi que les fonctions de PDG restent unies. Sauf que ça pose quand même un petit peu la question, un jour, de la succession de Patrick Pouyanné, qui n'est pas tabou, mais qui n'est pas non plus sous. Alors Pouyanné est encore un dirigeant relativement jeune, il a 60 ans, mais la succession du PDG de Total, c'est un sujet à la fois sérieux et sensible, puisque je rappelle quand même que Patrick Pouyanné est PDG de Total depuis 10 ans et qu'il avait pris les rênes du groupe à un moment particulier, puisque c'était suite au décès brutal de Christophe de Margerie, et à l'époque il était l'un des deux dauphins de Christophe de Margerie, et donc ça pose quand même la question de sa succession, même si elle n'interviendra que dans plusieurs années, sur qui pourrait lui succéder. Il n'y a aucun indice, en tout cas confirmé par le groupe, mais il y a quand même quelques personnalités, dont un homme qui s'appelle Stéphane Michel, qui lui dirige la branche dédiée au gaz et aux énergies renouvelables, qui sont les deux activités phare de Total, puisque Total se dirige à la fois et est devenu un gazier, et se dirige évidemment vers une électrification massive dans les décennies à venir.
Merci beaucoup Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Puis toute autre chose pour terminer, c'est un sujet que vous avez peut-être abordé il y a quelques semaines au ski. Que vont devenir les professionnels de la montagne qui vont être de plus en plus confrontés aux conséquences du réchauffement climatique? On en parle parce que figurez-vous qu'il y a un salon professionnel qui vient de débuter à Grenoble, et on voit là-bas de grands acteurs venir expliquer comment ils vont gérer tout cela sur le long terme. Regardez par exemple comment le groupe Rossignol se prépare pour les prochaines décennies. Hélène Cornet nous raconte ça.
20% du chiffre d'affaires de Rossignol est réalisé par les chaussures et les produits textiles. L'idée est de passer à 30% dans 2 ans, car tout l'enjeu du groupe est de développer un modèle économique 4 saisons et ne plus dépendre du tout-ski. L'idée n'est pas nouvelle, mais l'équipementier sportif a décidé d'accélérer cette transition avec beaucoup plus de références proposées dans la pratique du vélo, de la randonnée ou du trail par exemple, histoire de trouver de nouveaux relais de croissance. Pas si simple quand on a bâti toute sa réputation sur le ski alpin en équipant les meilleurs athlètes. Parallèlement, Rossignol a lancé une application pour aider les stations de montagne à attirer les vacanciers toute l'année. Baptisée On Piste, elle recense les circuits de randonnée ou de VTT avec cartographie et détails techniques, mais aussi les bonnes adresses. Le groupe veut devenir un acteur de service à la montagne. Selon les modèles climatiques, il lui reste 20 à 30 ans pour se transformer.
Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture ce soir à Paris, plus 0,52% pour le CAC 40 qui a repassé la barre des 8000. 8023 points ce soir à la clôture. Bonsoir Aude Kersulec.
Bonsoir Guillaume.
À Wall Street, il n'y a pas vraiment de tendance, c'est un petit peu mou là Aude pour l'instant.
Oui, peu de changements. Alors il faut dire qu'on sort de 4 séances de baisse. À chaque fois on avait essayé d'y croire et puis en fin de séance ça s'était mal passé. La tech continue d'évoluer négativement. Le Nasdaq est actuellement en repli de 0,3% alors que le Dow Jones, c'est pour le moment le S&P, sont à la hausse. Alors on a du mal à redémarrer. Il faut dire qu'on a d'autres indicateurs sur l'économie américaine qui continuent d'arriver, qui sont vigoureux. C'est le Philly Fed notamment, un indicateur d'activité qui a progressé fortement, un plus haut que le consensus. On se dit donc que les baisses de taux vont franchement tarder à arriver et on met du temps aussi à rentrer à Wall Street pleinement dans la saison des résultats. Il faut attendre encore un petit peu. Alors cela dit, on a eu TSMC aujourd'hui qui a publié. On est dans les puces, hein, cette société taïwanaise, mais cotée à Wall Street. Eh bien, malgré le fait que la société batte le consensus, on perd 5% à Wall Street. On est plus prudent, en fait, pour l'entreprise sur les perspectives. Donc forcément, ça nous fait trépigner pour Nvidia. Qu'est-ce qui va se passer pour Nvidia? Ce sera le 30 avril, sa publication. Et puis Tesla, un mot de Tesla qui perd encore 3%. Aujourd'hui, on est à un plus bas de 1 an, $150. Elle en valait 250 au début de l'année.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, avec nous sur BFM Business. 19h12, on revient avec Audrey Tcherkov, bien sûr, à nos experts dans un instant. Encore plein de trucs à voir ensemble jusqu'à 20h. Le salaire décent nous a dit ce matin le patron de Michelin. C'est quoi un salaire décent? C'est presque un sujet de philo. La France et le Brésil qui accélèrent sur la taxe minimale sur les milliardaires. Et puis les arrêts de travail qui ont baissé l'an dernier en France, partout, sauf dans les petites entreprises. Ça, c'est un phénomène de plus en plus marqué depuis quelques années. Tout ça, plus bien autre chose, évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, on est reparti jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Sauf avec nous, bien sûr, jusqu'à 20h. Et nos experts, ils sont restés avec nous. Alors, Pascal Delima est resté avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir Pascal. Guillaume Autier est avec nous, PDG du groupe Meilleur Taux. Bonsoir Guillaume, bienvenue.
Bonsoir Guillaume.
Et puis Guillaume Duval qui est avec nous. Guillaume, bonsoir. On est en délégation ce soir, c'est comme ça. Ancien rédacteur en chef d'Alternatives Économiques. Alors, on a beaucoup de choses à voir ce soir ensemble, à commencer. Oui. Ah, cette question qu'a reposée ce matin le patron de Michelin, c'est presque un sujet de philo à part entière à quelques semaines du bac. Qu'est-ce qu'un salaire décent, Audrey?
Oui, alors Florent Ménégaud est très clair. Il dit que le SMIC aujourd'hui n'est pas suffisant, en tout cas à ses yeux. Il considère par exemple qu'à Clermont-Ferrand, le salaire décent devrait être de 20% supérieur. Et le double à Paris, il généralise ça aujourd'hui, mais il nous en parlait déjà. Il y a 2 mois sur BFM Business, on l'écoute.
A déjà déployé et aujourd'hui, au 1er janvier 2024, 100% des salariés de Michelin, quelles que soient leurs activités, partout dans le monde, sont à un salaire minimum défini par Michelin.
Mmh. Et qui est au-dessus du SMIC.
Qui est très au-dessus du SMIC.
Très au-dessus, c'est-à-dire combien?
Très au-dessus, entre 40 et 50% au-dessus du SMIC.
Ah oui.
Oui.
Ça, c'est le salaire minimum Michelin.
Oui, le salaire minimum, il est défini pour dire qu'il faut qu'un salaire puisse permettre à une famille composé de 2 adultes et de 2 enfants, de pouvoir avoir accès non seulement à la nourriture, mais aussi au logement, à la culture, au transport, aux loisirs, aux vacances. Et parce que derrière, ce qui est important, c'est qu'une personne puisse se projeter. Ouais.
Alors, le SMIC a pour objectif d'assurer que les travailleurs touchent un salaire, en effet, qui leur permet de subvenir à leurs besoins de base, c'est-à-dire logement, nourriture et puis autres dépenses essentielles. On voit bien qu'avec l'inflation, ça devient quasiment impossible. Vivre avec le SMIC, c'est un peu passer sa vie à compter tout le temps. Guillaume Autier, vous êtes chef d'entreprise. Tout le monde n'est pas Michelin. Comment les petites et moyennes entreprises peuvent faire pour venir en aide justement à ce problème de pouvoir d'achat de leurs salariés?
Oui, la notion de salaire décent, elle est évidemment hautement subjective. Et puis, c'est dans le propos d'ailleurs du président de Michelin, elle dépend de l'endroit où on habite. On voit bien qu'à Paris, la réponse n'est pas tout à fait la même que dans une autre ville et à plus forte raison à la campagne. Et ce qui est clair, en revanche, moi je rejoins ce qu'a dit le président de Michelin, c'est que typiquement en région parisienne et particulièrement à Paris, vivre avec le SMIC est très très difficile. Et donc on peut probablement estimer que on est en dessous du salaire décent avec le SMIC à Paris. Ça fait pas de doute. Mais moi je veux faire deux remarques sur l'annonce qui a été faite aujourd'hui. Bon, premièrement, évidemment on peut applaudir Michelin. Il n'y a pas de doute. C'est très très bien joué. On aurait tort de prendre cela en fait pour de la philanthropie, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui opère dans un marché très compétitif, d'abord évidemment son marché d'entreprise, mais le marché du travail. Elle a évidemment intérêt à attirer les talents, à conserver ceux qu'elle a, donc la mesure qu'elle prend, elle est d'abord destinée à ça. Elle est d'abord destinée à faire ce qu'on appelle de la rétention, et ça prouve d'ailleurs au passage que le libre jeu du marché et de la concurrence, en l'occurrence de la concurrence sur le marché du travail, il est plus efficace pour augmenter les salaires qu'un Grenelle, une commission, une loi, une réglementation. Je pense que c'est une bonne leçon que nous pouvons tirer de l'annonce de Michelin. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que, bien sûr, la notion de salaire décent, elle fait référence au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est, au fond, après les charges. Et donc, on a aussi une question de niveau des charges en France, particulièrement des charges sociales. Quand on regarde, alors au niveau du SMIC, c'est un peu particulier, parce que, comme vous savez, les charges patronales, elles font l'objet d'allègements de charges. Mais si on prend un niveau un petit peu plus élevé, quelqu'un qui aurait, par exemple, un salaire brut de 3000 euros, le coût pour l'employeur, c'est 4100 euros. Et net pour lui, c'est à peu près la moitié. Il y a 50% de pouvoir d'achat qui, en fait, sont, j'allais dire, consommés par les cotisations sociales, les impôts, l'impôt sur le revenu. Alors, il y a évidemment des services en face, mais je pense que la vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a un niveau de charge qui permet d'avoir en fin de mois, si je puis dire, net, en bas à droite, un niveau suffisant. Cette question est au moins aussi importante.
C'est une question qui a été posée en filigrane par Gabriel Attal, qui a parlé de desmicardiser la France. Évidemment, au-delà de ça, déjà, à la base, on parlait, Guillaume, mais est-ce que vous achetez l'idée, la fausse philanthropie dont parlait Guillaume Autier à l'instant, s'agissant de Michelin?
C'est une affaire, effectivement, intéressante. C'est pas de la philosophie, hein. Le salaire décent, c'est un paquet de services et de produits dont on considère que les gens ont absolument besoin, et je pense que c'est quelque chose d'assez sérieux. C'est fait dans le monde entier. Après, bon, pour ce qui concerne Michelin, c'est une opération de communication qui coûte pas très cher, en fait, hein. Donc c'est 7000 salariés chez Michelin, admettons que, enfin, qui étaient en dessous de ce qu'ils ont trouvé, admettons qu'ils leur ont donné 2000 euros en plus à chacun, ça fait 15 millions d'euros. C'est moins cher, effectivement, que d'acheter une campagne de publicité chez BFM pour Michelin.
Alors, ailleurs. Ça ne coûte pas forcément 15 millions d'euros pour faire ça chez BFM.
C'est bien joué pour eux. Mais le fait que ça concerne personne chez Michelin, ou pas peu de gens chez Michelin, ça montre aussi une chose, c'est que c'est pas avec des bas salaires qu'on devient compétitif à l'échelle mondiale. C'est effectivement quand on est capable d'être très productif et donc de mobiliser ses salariés, de pouvoir compter sur leur engagement, etc., etc. Et ça se fait pas à coup de SMIC et de bas salaires, ce qui est effectivement tout le contraire de la politique qui a été menée par le gouvernement actuel et ses prédécesseurs, qui a été de pousser la smicardisation de la France. Hein, on est le pays d'Europe où il y a le plus de smicards, mais c'est lié 17%. D'abord à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire
le SMIC a été relevé parce que les règles sont ainsi faites. Guillaume, qu'on a relevé
de
nombreuses
reprises. Je ne parle pas de ça, je parle des politiques de charges sociales, de cotisations sociales, qui sont supprimées au niveau du SMIC pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de smicards en France. On a réussi, mais ce n'est pas comme ça qu'on devient compétitif, notamment dans le domaine industriel, et c'est ce que montre très bien Michelin dans cette affaire.
Non, mais c'est sûr que la France est le pays où la proportion de salariés payés au salaire minimum est la plus élevée par rapport à ses voisins. Mais Pascal Delima, si on comprend bien l'intérêt, évidemment, de l'employeur à veiller au pouvoir d'achat de ses salariés, pourtant, toutes les entreprises cotées sont loin d'avoir le même discours que le patron de Michelin.
Non, et c'est dommage. Je répondrai par le prisme du paternalisme social, hein, qui est une histoire chez Michelin, on le sait, et puis sur celui de l'actualité et les tendances sociologiques du moment, si vous voulez. Sur le premier point, très clairement, c'est ce que dit Guillaume très bien, c'est-à-dire que de toute façon, il y a des études subjectives, il y a des études qualitatives qui sont faites pour savoir quels sont les biens de première nécessité, et que par conséquent, le salaire décent n'est pas qu'une question de philosophie, mais une question de niveau de vie aussi, et qui correspond à un certain nombre de biens, voilà, logement, nourrir, éducation, sur une
profil donc une question de vie et de survie typique. Parfois.
Donc voilà, exactement, avec évidemment des différences entre zones géographiques. Donc là, il y a une histoire dans le paternalisme social de Michelin qui se reproduit un petit peu aujourd'hui et qui n'est pas qu'une affaire de communication, mais qui est aussi le fait que tout simplement c'est une entreprise aussi qui fait beaucoup de marge et qui par conséquent a les moyens aussi de pouvoir...
Tout le monde n'est pas Michelin.
De pouvoir à la fois faire des marges, des profits et en même temps du social. Voilà, c'est tout à fait compatible. Non, mais
vous avez raison de le dire, parce que la culture du partage de la valeur fait vraiment partie de l'ADN.
Oui, tout à fait. Il suffit de lire le dernier livre, j'ai oublié l'auteur, mais bon, sur l'histoire de Michelin, on voit très très bien que les deux sont compatibles. Le deuxième, c'est le prisme sociologique, où là, effectivement, aujourd'hui, il y a une quiet demission, comme on dit. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle le loud quitting, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des salariés qui font constamment grève, qui ont constamment des revendications au jour le jour, qui sont des pressions constantes sur les patrons. Il y a aussi une grande démission, comme je l'ai dit, donc il y a aussi une démotivation sur le marché du travail. Et lorsqu'on leur demande quel est le critère numéro 1, on ne leur demande pas 10 critères, un seul, c'est le salaire décent. Donc forcément, ce n'est pas le SMIC, c'est le salaire décent. Et donc je pense qu'il y a une réponse sociologique et une réponse liée au paternalisme et à l'histoire de Michelin.
Et est-ce qu'il y a une réponse européenne à voir? Parce que je vous rappelle qu'il y a eu un texte qui a été voté en juin 2022 pour mettre en place un cadre commun pour assurer à chacun justement un salaire suffisant pour avoir un niveau de vie suffisant. Donc on est bien d'accord pour dire que c'est une question de compétitivité, mais à l'échelle européenne, Guillaume.
Oui, il me semble assez clair que s'il y a un cadre européen, il va probablement assez peu mordre sur les règles françaises, parce que le coût de la vie est plus élevé en France que dans la moyenne de l'Union européenne. Donc je crois assez peu que si des règles européennes sont adoptées, elles aient un impact sur les règles françaises. Je
pense que pas au SMIC européen qu'on essaie de nous vendre pour deux années. C'est vrai que c'est très très difficile.
Oui, il est assez probable que le SMIC français soit déjà plus élevé que le SMIC européen. Mmh. Et je pense qu'un autre élément qui illustre l'annonce de Michelin, c'est que Michelin, au fond, en tout cas pour les salariés français, vous avez raison de dire que c'est une petite partie des salariés, ça c'est factuel. C'est un bassin d'emploi, en fait, très très limité géographiquement. On parle de Clermont-Ferrand, avec bien sûr une pression extrêmement forte d'emplois non industriels. Je rappelle que par exemple dans l'industrie, il n'y a pas de télétravail. Donc pour attirer les gens, de nouveau, je reviens à mon point, pour attirer des gens, pour conserver des salariés qui ont un savoir-faire, une expertise, une expérience, l'entreprise n'a en fait pas d'autre choix. Pas d'autre choix que de prendre les mesures qu'elle a prises. Donc, effectivement, je crois au paternalisme. Michelin est une entreprise qui est, je dirais, dans le cœur des Français. Voilà, et on peut évidemment leur donner crédit de ça.
Et elle
d'abord, commencer par les applaudir. Mais ils le font d'abord pour des raisons simplement de marché du travail. L'emploi industriel aujourd'hui, c'est un emploi qui est plus dur. Ouais. Par exemple, typiquement, le sujet du télétravail dont je parlais, il ne se retrouve pas. Et typiquement, je pense qu'un point que ça illustre, c'est que quand on parle de bas salaire, de smicardisation, on a encore un peu l'image, je dirais, un peu romantique, un peu d'épinal, que c'est un ouvrier dans une usine qui est un smicard. On voit que c'est de moins en moins le cas.
C'est l'époque qui évolue, ça.
Le smicard, aujourd'hui, en France, il travaille plutôt dans les services, il fait le ménage, il travaille dans une collectivité, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Finalement, dans l'industrie, on voit de plus en plus que, on est un peu mieux payé que dans les services.
Guillaume Duval, pour conclure là-dessus.
Oui, moi, ce qui me paraîtrait vraiment important et positif, si Michelin le faisait ou d'autres, c'est aussi que ces gens-là disent non seulement chez moi, il y aura un salaire décent, mais chez mes sous-traitants, chez mes fournisseurs. Hein, parce qu'en fait, souvent, ces grandes boîtes, effectivement, payent elles-mêmes assez bien leurs gens, mais elles pressurent leurs fournisseurs et leurs sous-traitants en profitant justement de leur pouvoir d'achat, dans le cas précis. Donc là, ça irait plus loin.
Voilà pour Michelin. Est-ce que vous semblez considérer être un coup de com' aujourd'hui du patron de Stellantis?
Non, je disais,
effectivement, c'était il y a deux jours. Certaines entreprises du CAC 40 comme Veolia, Stellantis et notamment Sanofi avaient pris des mesures sociales un petit peu du même tonneau. Voilà. Est-ce que c'est une tendance ou pas? Ça, c'est une grande question. Voilà.
Oui.
On reste en France avec tout ça.
Voilà, on reste en France. On va parler de ces chiffres qui sont tombés ce matin, qui nous disent qu'en 2022, alors ce sont les chiffres les plus récents qui circulent, il y a eu plus de grèves dans plus d'entreprises et souvent plus longues.
Alors, chiffre de la DARES. En 2022, donc on sortait un petit peu des contraintes du Covid, 2,4% des entreprises de plus de 10 salariés du privé ont connu au moins un arrêt de travail. C'est 0,8 points de plus qu'en 2021. Il y avait des mesures Covid. Mais en gros, on est revenu assez vite au niveau d'avant Covid qui était à 2,5%. Et le nombre de journées non travaillées pour grève a progressé de 71%. La colère, elle est toujours là, stagnante. Quelque part, ça veut dire quoi ces chiffres, Pascal Delima? Comment vous regardez ça, vous?
Moi, je pense qu'il y a un véritable mécontentement qui a des raisons multidimensionnelles. La conjoncture économique, on la connaît. Le marché du travail est tendu. La motivation aussi dans les entreprises, parfois, se perd un peu. On a parlé tout à l'heure d'attrition, de turnover. Je crois qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui à se projeter sur les métiers de demain, tout simplement parce qu'on ne parle pas de croissance de demain, tout simplement parce qu'on est trop rivé sur des techniques administratives et fiscales et qu'on est assez peu rivé sur le monde du futur, c'est-à-dire sur les métiers de demain, sur l'IA, sur l'innovation, toutes les innovations qui arrivent.
Oui.
Et je suis persuadé qu'on est en train de prendre un retard sur cette transformation économique et numérique qui explique pas mal de choses, dont une partie des déficits structurels, à mon avis, et que je pense qu'on devrait pouvoir avoir ce vrai débat, je dirais, sur les métiers de demain, sur ceux qui s'enrichissent, ceux qui vont disparaître, et les nouveaux métiers, parce que c'est là que la jeunesse va créer va accroître la part du gâteau, et c'est là-dessus qu'on pourra trouver des leviers.
Oui.
Sur les recettes aussi. Ah
oui. Alors d'accord, mais c'est aussi...
C'est pas que du blabla, c'est vraiment...
Non, vous avez raison Pascal, mais c'était aussi un sujet très culturel. Enfin, c'est-à-dire que le recours à la grève qui est censé être exceptionnel dans la plupart des entreprises et qui est censé être le moyen de dernier recours est utilisé comme un moyen de négociation. Et d'ailleurs, tous les gouvernements ont fini par s'en faire une raison.
Un problème de projection, de qualification,
Guillaume,
de formation.
Il faut être sérieux. 2% des entreprises qui sont concernées, ça fait 0,1 jour de grève par 1000 par salarié.
Mais on parle du privé. Hein. Je parle que
oui,
du privé.
C'est ça. Non, mais attendez, ça peut bloquer la France entière, Guillaume.
La référence qui est prise, c'est celle de 2020-2021, qui était des années Covid, où il ne s'est rien passé nulle part.
Jusqu'en 2022,
c'est
quand les mesures
sont
revenues vite.
Voilà, c'est ça, on parle de 2022.
C'est deux fois moins qu'en 2019, en termes de nombre de jours de grève, parce que 2019, il y avait le mouvement sur les retraites en particulier, etc. C'est le niveau de conflictualité en France, il est très faible. Il est très faible parce que notamment les salariés sont écrasés dans leurs entreprises. Ils n'ont pas tellement de possibilités de se syndiquer. Ils n'ont pas tellement de possibilités ils sont tout de suite menacés effectivement d'être virés. Il y a une répression antisyndicale qui est très forte.
Bon, c'est un peu
France.
Extrême.
Et alors c'est pas tout à fait vrai dans quelques grandes entreprises.
Non, mais c'est pas pareil
partout. Services publics. Mais là, on parle du secteur privé. Pour l'ensemble des salariés. La quasi-totalité des salariés, c'est celle-là.
Bon, alors justement, la parole au chef d'entreprise, c'est votre sentiment aussi, Guillaume Autier ?
Alors, je pense en effet que les évolutions d'une année sur l'autre, finalement, elles correspondent plutôt à des artefacts. Je crois qu'au total, je suis assez d'accord pour dire que le phénomène dans le privé, il reste assez limité. Il est d'ailleurs quasi exclusivement le fait des grandes entreprises. On voit que la proportion dont vous parliez, elle est extrêmement différente. Il y a quasiment un rapport de 1 à 30 entre les entreprises en dessous de 500 salariés et celles au-dessus de 500 salariés. Par contre, le sujet de la grève en France, il est concentré à quelques endroits. Je veux dire, le sujet des grandes entreprises en privé est en fait pas vraiment un sujet. 20% du sujet de la grève en France, c'est une seule entreprise qui s'appelle, bien entendu, la SNCF. Ouais. La SNCF, je rappelle quelques chiffres, c'est 1,4% de l'emploi salarié en France, c'est 20% des jours de grève. En 2022, pareil, les derniers chiffres disponibles. Et d'ailleurs, je me demande même si les grèves évitées sont pas encore plus coûteuses que les grèves réelles. Il se trouve qu'au moment même où l'étude de la DARES a été publiée, je crois que ça date d'hier, le PDG de cette entreprise, Jean-Pierre Farandou, a annoncé, je cite, et c'est d'ailleurs quasiment communiqué comme ça, que pour sauver les ponts de mai, on prenait des mesures sur les fins de carrière. Je rappelle au passage que la retraite dans le régime de la SNCF est calculée sur les 6 derniers mois. Donc quand on prend des mesures sur les fins de carrière, en réalité, on engage tous les régimes de retraite pour les 40 ou les 50 ans qui viennent, pour sauver les ponts du mois de mai. Donc finalement,
La reddition de ce qui s'est passé en février.
Exactement. Donc la culture de la grève, finalement, qu'elle se traduise effectivement par la grève ou qu'elle soit un instrument de pression qui est utilisé de manière, à mon avis, totalement dévoyée, finalement, ça représente un coût extrêmement fort pour la collectivité. Mais ce n'est pas tellement le secteur privé qui est le sujet, c'est plutôt extrêmement concentré dans un petit nombre d'entreprises, dont bien sûr
Guillaume,
la SNCF.
Guillaume Duval voulait réagir à ce que disait Guillaume Autier là, sur la SNCF. Effectivement, c'est.
SNCF, il y a des entreprises. Certaines entreprises, ce n'est pas seulement vrai en France, c'est aussi vrai en Allemagne et dans d'autres pays. Il y a certaines entreprises qui, du fait de leurs activités, ont un impact très fort sur l'ensemble de la vie sociale et leurs salariés en profitent, je dirais, pas légitimement, mais d'une manière très compréhensible pour faire avancer leur situation sociale. Après, ce qui est caractéristique en France, mais ça a été, c'est la différence effectivement fondamentale qui existe entre la situation des salariés dans les petites entreprises et dans les grandes. Et je pense que ça, c'est un problème de cohésion sociale et politique majeur. C'est derrière, je crois, aussi la montée de l'extrême droite qui, je pense, est beaucoup plus représentée parmi les salariés.
Le Sénat s'est exprimé il y a quelques mois sur
le
sujet.
Donc là, la question question pour moi, c'est de renforcer les droits sociaux des salariés des petites entreprises, pas forcément de renier ceux des grandes entreprises.
Donc le Sénat s'est exprimé par un vote il y a quelques mois en disant qu'il allait mettre en place des périodes durant l'année durant lesquelles il allait interdire le droit de grève.
Allez, 19h32 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h37 sur BFM Business, on vous parle de ce qu'il se passe à Washington. Nous sommes avec Guillaume Autier, Guillaume Duval et Pascal Delima. Alors la France et le Brésil accélèrent. Bruno Le Maire et son homologue Fernando Haddad présentent aujourd'hui à Washington donc leur proposition commune de taxation minimale des milliardaires.
Bah oui, parce que vous savez que le Brésil préside le G20, il en fait une priorité. Bruno Le Maire suit, c'est l'idée d'aller chercher l'argent qui arrive, vous savez, à passer entre les mailles du filet de l'optimisation fiscale. Et alors, il y a eu cette déclaration de Gabriel Zucman, vous savez, l'économiste star du moment qu'a dit cet après-midi, mais en fait, c'est facile à mettre en place tout ça. Est-ce que c'est vraiment si facile à mettre en place que ça, Guillaume Duval, une taxe minimale sur les milliardaires?
Non, c'est pas facile à mettre en place, et c'est pour ça que Bruno Le Maire est pour. C'est parce qu'il sait très bien que ça n'arrivera pas d'ici 15 ans, et que les électeurs d'Emmanuel Macron et les gens qui financent ses campagnes ne seront pas touchés dans un avenir prévisible. Pour autant, c'est difficile, mais on y est parvenu sur l'impôt minimal sur les entreprises, sur les bénéfices des multinationales.
Ça nous a pris 7 ans quand même.
Ça a pris très longtemps, on y est parvenu.
Pardon, ça a pris 7 ans, comme Audrey, c'est pas opérationnel partout encore.
On y est parvenu sur les entreprises du numérique, on est parvenu à faire sauter à l'échelle mondiale le secret bancaire. Donc on parvient à faire ces choses-là, ça prend du temps. Mais effectivement, le chaînon manquant maintenant, c'était la taxation des personnes, et en particulier des gens qui placent leurs fonds dans des paradis fiscaux à titre personnel. Donc là, oui, c'est bien d'aller dans ce sens-là. Ce serait encore mieux si c'était possible dès les années prochaines, mais même si ça prend 15 ans, il faut le faire.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le pourcentage d'impôt que payent les contribuables baisse au fur et à mesure que l'on monte dans l'échelle des revenus, et que ceux qui se payent via les dividendes des entreprises qu'ils possèdent sont moins taxés, pour la bonne et simple raison que les dividendes sont moins taxés que les salaires. Et il y a même des milliardaires qui sont eux-mêmes force de proposition sur le sujet en disant « mais nous, on veut être taxés, alors taxez-nous ». Pascal Denima, enfin, pourquoi est-ce que c'est pas mis en place?
Taxez-nous, bon, ils sont une minorité aussi, hein, de mémoire.
Les patriotiques milliardaires.
Tout à fait, alors ils sont pas très nombreux. Après, au-delà de la fraude, tout ça, et de l'optimisation fiscale un peu nébuleuse, etc., imaginons des riches, j'ai presque envie de dire, normaux.
Alors un riche normal, c'est quoi?
C'est comme le salaire décent, là, je ne sais pas.
Ne cherche pas systématiquement à fuir le fisc, qui cherche plutôt à rester en France, etc. C'est quand même pas facile non plus. Pour deux raisons. La première, c'est que, prenons simplement la question de la taxe Tobin, qui a été un véritable
échec.
Globalement échec. Ouais. D'abord, ça peut restreindre la liquidité du marché de l'immobilier. Ensuite, ça peut faire baisser la valorisation immobilière, comme ça a été le cas pour les actions lorsqu'on a tenté, dans un certain nombre de pays, de mettre en place cette taxe Tobin. Donc, il y a des problèmes techniques, comme a très bien dit d'ailleurs Guillaume aussi au début. Hein. Il y a eu des problèmes concrets sur cette taxe Tobin. Et bien, c'est un peu le même genre de scénario qui peut se profiler à l'avenir. Deuxièmement, comme on a affaire à des pays, il est évident qu'il faut que ce soit à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle monde. Et se coordonner à l'échelle de l'Union européenne, c'est pas facile, c'est un peu banal que de le dire, à l'échelle monde encore moins. Et effectivement, si vous faites que dans un pays, vous risquez de générer ce que vous ne voulez pas, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire une fuite de l'impôt. Il y a donc un effet pernicieux. Et puis enfin, je voudrais quand même, pour ceux qui ont accumulé cette richesse au cours de leur travail, qu'on puisse distinguer ce qui est hérité de ce qui est accumulé à partir du travail et de la réussite professionnelle. Voilà, c'est deux remarques.
Oui, mais alors ça c'est bien le problème, Guillaume, si on rebondit sur ce que Pascal vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, le patrimoine rapporte beaucoup plus que le travail.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce que le régime fiscal des dividendes, comme vous savez, alors je reprends des propos et c'est des sujets très très complexes, mais on dit que finalement un dividende, il est payé après avoir supporté l'impôt. Oui. Je rappelle que les entreprises payent de l'impôt sur les sociétés. Donc finalement, quand ce dividende arrive dans les mains d'un actionnaire, finalement, il a déjà supporté l'impôt. Enfin voilà, il y a tout un débat.
Et il est réinvesti.
Oui.
Il est réinvesti.
Mais finalement, moi, au risque de vous surprendre, je suis en fait assez d'accord avec ce qu'a dit Guillaume Duval. C'est-à-dire, je pense que l'initiative dont nous parlons, moi j'en fais une lecture purement politique. Comme vous savez, il y a bien sûr énormément de pression, et je dirais de buzz dans le paysage français sur ce sujet de la taxation. Alors parfois on dit des gros patrimoines, parfois on dit des gros revenus. Finalement,
donc c'est le même Bruno Le Maire qui ne veut pas taxer les super profits en France.
Oui. Voilà. Et finalement, c'est une façon de faire exister le sujet et de dire, voyez, on s'en occupe. On a fait une coalition avec le Brésil. En ayant, à mon avis, un degré de conviction assez élevé, je rejoins ce que vous avez dit sur le fait que ça n'a absolument aucune chance de déboucher, parce que pour mettre le G20, je rappelle, le Brésil, c'est évidemment un pays très sympathique, mais dans le G20, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, oui. Avant qu'ils soient d'accord avec l'initiative comme ça.
Non, les États-Unis, enfin Joe Biden en tout cas, s'est exprimé en faveur de cette taxe. Hein.
Je ne pense pas exactement sous la forme sous laquelle elle est arrivée, donc je pense qu'en effet, à ce stade, moi je fais plutôt, je veux pas avoir l'air cynique, mais je fais plutôt une lecture un peu politique du sujet. Oui. Je ne crois pas que structurellement, on en soit à définir les paramètres techniques de cette taxe. Je pense que c'est plutôt pour occuper un petit peu le débat sur le sujet.
Oui, Guillaume Duval, pour terminer.
Sur les paramètres techniques, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais simplement ce que je veux dire, c'est que oui, c'est difficile, c'est long, etc. Mais enfin, faire plier les paradis fiscaux, c'est pas compliqué si on veut politiquement.
Déjà toujours de coopération,
c'est toujours des tout petits États fiscaux qui n'ont pas d'armée, etc. Enfin, je veux dire, si on veut mettre au pas le Luxembourg ou mettre au pas un certain nombre d'îles dans les Caraïbes, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de divisions pour qu'ils cèdent. Hein. C'est une question de volonté politique plus que d'autres choses.
Bruno Le Maire qui dit qu'il n'y a pas assez de coopération entre les services fiscaux en 2024.
Il faut que les grands pays qui sont les victimes de ces choses-là en termes de recettes fiscales enfin, que les dirigeants des grands pays acceptent de faire du mal aux gens qui financent leur campagne financent leur parti politique.
Parce que vous expliquez tous les deux que ce projet de taxer les ultra-riches, c'est uniquement politique et c'est uniquement de l'affichage. Au moment où il y a 20 milliards à aller chercher pour réduire le déficit public, je ne suis pas tout à fait certaine que ce soit que de l'affichage. On est en train de chercher de l'argent partout.
Absolument. Mais c'est d'abord à l'échelle française et européenne qu'il faudrait le faire, ce que ne fait pas Bruno Le Maire.
Moi, je veux juste noter, j'avais l'air d'être d'accord, mais j'avais une nuance très forte avec Guillaume Duval. On a l'air de faire une espèce de pot commun entre les milliardaires, les paradis fiscaux. Enfin, je rappelle, si on prend les plus grandes fortunes mondiales, si on prend la plus grande fortune française, c'est quelqu'un dont la fortune est quasi exclusivement composé d'actions dans son entreprise LVMH. Je crois que LVMH, c'est une entreprise. Alors pour le coup, il n'y a pas plus public. On sait parfaitement ce qu'elle fait.
Elle est présente dans une centaine de paradis fiscaux.
Oui, mais on en revient au fait, Guillaume, que les dividendes sont beaucoup moins taxés que le revenu.
Mais son activité, elle est dans des pays où sont ses clients. C'est-à-dire, en effet, partout dans le monde, mais là où il y a, je dirais, des clients, eux aussi, assez fortunés. Mais ne laissons pas s'installer l'idée que le sujet des grandes fortunes, c'est le même sujet que les paradis fiscaux.
Non, bien sûr.
On pourrait d'ailleurs prendre d'autres cas, mais finalement les plus gros cas sont aussi ceux qui ont le plus gros impact, mais typiquement un Elon Musk, un Bill Gates, ce sont des gens dont la fortune c'est d'abord leur entreprise, on sait parfaitement ce qu'elle fait.
Allez, il faut qu'on accélère un petit peu, on va parler santé.
Oui, alors avec des chiffres qui sont assez intéressants que nous a donné ce matin Malakoff Humanis, ils nous disent que globalement l'absentéisme pour arrêt maladie avait baissé en 2023, donc ça baisse, mais au niveau des petites entreprises, là par contre c'est l'inverse.
Net baisse dans les entreprises de plus de 1000 salariés, ça fait 3 ans qu'on observe ça, alors que par le passé, les petites entreprises ont souvent été...
Nette hausse, effectivement.
Alors que les petites entreprises ont souvent été épargnées par le passé, par les arrêts maladie. Qu'est-ce que dit Malakoff Humanis? Moins de recours au télétravail, on est dans les entreprises, on a moins recours au télétravail. Érosion de l'engagement des salariés dans les petites entreprises, et puis meilleur respect des accidents, des arrêts de travail dans les petites entreprises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les petites boîtes aujourd'hui, Guillaume Duval?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ne font pas grève, mais quand ils sont mécontents, ils se mettent en arrêt de travail.
C'est le quiet quitting.
D'ailleurs, enfin, si on compare les chiffres, la question de l'absentéisme est beaucoup plus grave et beaucoup plus coûteuse pour l'économie française que les grèves, hein, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, alors on parle même de 4,7 points de PIB.
Oui, enfin, il y a une autre donnée. Enfin, donc, ce qui se passe dans les petites entreprises est caractéristique, je pense, d'une difficulté structurelle qui est liée à l'absence de droits sociaux dans les petites entreprises. Je pense qu'il y a la question des seuils sociaux qui est toujours discutée. Je crois que le moyen le plus simple de la résoudre, ce serait de les abaisser. Hein. Donc, en Allemagne, vous avez les mêmes droits sociaux à partir de 5 salariés. Vous avez les mêmes droits sociaux que dans les très grandes entreprises, en tout cas au niveau de la représentation, etc. etc. Et ce serait important. L'autre chiffre qui m'a frappé dans cette étude, enfin c'est peut-être pas humaniste là, mais c'est la hausse très forte des arrêts longs.
Oui.
Et des choses comme ça. Là, ça traduit aussi pas forcément simplement des malaises et du mal-être au travail, mais aussi une montée des problèmes de santé
C'est le vieillissement de la population aussi, Guillaume. C'est le vieillissement de la population.
Oui, mais qui sont liés aussi aux atteintes environnementales. Hein, je veux dire, à la question de l'obésité, de tous les dérèglements qui sont suscités par le fait qu'on a laissé les gens qui nous nourrissent nous empoisonner. Quoi, hein. En gros, pendant un certain nombre d'années, en ne régulant pas suffisamment un certain nombre de choses, et ça se traduit par des pertes très importantes pour l'économie française.
Alors justement, parce que si on parle de régulation, le premier financeur des arrêts maladie finalement, des arrêts de travail, en tout cas des salariés, c'est l'État. On pensait que l'État avait pris la mesure du phénomène, son ampleur. Édouard Philippe avait promis une grande réforme sur les indemnités journalières, finalement il ne s'est rien passé.
Alors, il faut reconnaître que le gouvernement a cherché à s'occuper du sujet, d'ailleurs c'est pas l'État, c'est la Sécurité sociale,
oui.
Mais effectivement, moi je rappelle que dans la loi de financement de la Sécurité sociale de la fin de l'année dernière, le gouvernement avait pris deux mesures, dont l'une qui était assez symbolique, qui consistait à dire qu'un deuxième médecin pouvait, au fond, invalider l'avis du premier. Et ouais. Cette mesure a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et il y en avait une autre sur les arrêts de travail par téléconsultation, et d'ailleurs qui a connu le même sort. Et donc, moi, je note qu'en effet, c'est un sujet qui est très important pour l'équilibre des comptes sociaux. Les arrêts de travail, ce qu'on appelle les indemnités journalières, techniquement, pour la Sécurité sociale, c'est à peu près 25 milliards de dépenses. Hein. C'est un peu plus que 10% du budget de l'assurance maladie. Eh bien, en effet, le gouvernement, celui d'Edouard Philippe sans doute, mais le dernier, même récemment, a cherché à s'attaquer au sujet. Et finalement, on voit qu'il a juridiquement rencontré des obstacles. Or, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que l'évolution dont on parle, peut-être qu'à court terme, elle semble plus positive, mais il y a deux éléments qui viennent, entre guillemets, relativiser ces chiffres. Le premier, c'est qu'en effet, il y a des arrêts de travail qui disent pas leur nom. On connaît ça, c'est dans les entreprises. C'est vrai que quand il y a plus de télétravail, il y a un peu moins d'arrêts de travail. C'est-à-dire que, on voit bien, d'ailleurs, sociologiquement, quand on est à la maison, qu'on a un petit pépin de santé, finalement, on ne va pas le déclarer. Donc, les chiffres qu'on voit, ils masquent un peu cette réalité. Et la deuxième chose, c'est que je rappelle que dans beaucoup d'entreprises, il y a, soit par accord d'entreprise, soit par accord de branche, des maintiens de salaire. C'est-à-dire que les trois premiers jours, avant le délai de carence, en fait, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, mais par les entreprises. Et le 4,7% du PIB dont vous parlez, Audrey, il est probablement le reflet de tout ça. Et donc, l'analyse des chiffres, elle doit vraiment tenir compte de ça. Après, c'est un vrai sujet. Les arrêts longs, on le voit comme chez l'entreprise, je le vois aussi avec des confrères, on voit qu'il peut y avoir des situations d'arrêt de travail, des médecins qui sont connus dans des marchés de l'emploi comme étant plus cool, si vous me passez l'expression.
Oui.
Et on voit que quand l'État essaye de s'occuper du sujet, essaye de finalement remettre un petit peu de l'ordre là-dedans, le Conseil constitutionnel n'en empêche. Je trouve ça personnellement un peu dommage.
Il y a des velléités d'aller regarder du côté de l'assurance maladie, des arrêts de travail pour faire quelques économies quand même. Pascal, on le voit ça globalement.
Non, mais j'ai rien à dire à tout ce qui a été dit. Je suis d'accord avec Guillaume aussi. Évidemment, c'est vrai qu'on voit, très clairement. On ne sait pas trop pourquoi. On voit cette baisse de l'absentéisme des grandes entreprises, cette hausse de l'absentéisme des petites entreprises, avec effectivement. Ça, c'est le constat, un contexte sociologique qu'on a déjà un peu décrit, un mal-être au travail, les risques psychosociaux, le vieillissement de la population aussi, les arrêts maladie. Si on met tout ça bout à bout, finalement, il faut quand même qu'on ait une lueur d'espoir.
Il y a un facteur positif, que Malakoff donne, c'est l'érosion de l'engagement des salariés dans les petites entreprises.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Ça joue directement sur l'attrition et le turnover.
Ouais.
C'est que aujourd'hui, la marque employeur a un peu de mal dans toutes les entreprises. Hein. On remarque souvent.
Les exceptions.
Heureusement. Bon,
j'imagine.
Heureusement.
Là, je parle en général par rapport à une étude qui a été faite.
Non, mais ça a souligné aussi, Pascal, les dysfonctionnements managériaux qui minent un peu la qualité de vie au travail.
Dysfonctionnements managériaux, bien sûr. Aujourd'hui, on voit dans la plupart des entreprises, toutes les études sérieuses, hein, scientifiques, dans les revues du management le disent, il y a des problèmes de leadership, c'est des problèmes de vision d'avenir. Et j'ai pas parlé de Merto. Il y a des problèmes de management au sens du vrai management, c'est-à-dire que de la bienveillance, de faire grandir les uns et les autres ensemble, etc. Et parfois, le court-termisme business étouffe énormément ce management-là. Et finalement, le court-termisme business empêche de faire du vrai business à long terme. Et c'est là qu'est le serpent qui se mord la queue.
Guillaume Autier trépigne sur sa chaise.
Je remarque que ce que vous dites, évidemment, est vérifié, a des fondements. Je trouve un peu étonnant de la part d'un organisme complémentaire comme Alakof Humanis, finalement, d'accréditer l'idée que s'il y a des sujets managériaux, la réponse est dans les arrêts maladie. Je pense que son rôle devrait être de dire qu'il y a un problème et que peut-être s'il y a ce lien en pratique, il faut essayer de réduire ce lien. Ce n'est pas par un arrêt de travail qu'on corrige un problème managérial. Je ne connais aucun cas dans lequel ça ait fonctionné.
Guillaume Duval, pour conclure, quelques secondes.
Oui, simplement un élément qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, mais c'est que cette question concerne en particulier les jeunes 18-30 ans. Et ça, ça renforce plutôt.
Qui respectent plus les arrêts de travail que leurs aînés.
Et les femmes aussi.
Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time comme tous les soirs sur BFM Business. Vos coups de cœur ou coups de gueule du soir sur 30 secondes, ça c'est la règle inexorable.
Impitoyable cette émission.
Qui va commencer? Pascal, allez commencer, c'est à vous. 30
non,
secondes.
Pour un coup de gueule, je ne sais pas, c'est un article de l'American Economic Review qui explique les liens entre le crédit et le marché du travail, le fait de trouver un emploi, le fait de trouver un logement. Et donc, le point de départ finalement d'un épanouissement dans la vie professionnelle, personnelle, part du crédit et du financement. Et je trouve que, compte tenu des taux élevés aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire sur les taux d'intérêt.
Eh bien, la transition est toute faite. La parole à meilleur taux.
L'épanouissement.
Guillaume Autier.
Moi, je vais aussi parler du crédit. Et là, c'est plutôt un coup de cœur. Je veux rendre hommage à un parlementaire qui s'appelle Lionel Cause, qui a fait adopter par la Commission des finances de l'Assemblée nationale la semaine dernière une proposition de loi qu'il a déposée. Et qui consiste au fond à reprendre le contrôle sur une enceinte un petit peu bureaucratique, comme j'ai peu de temps, je la qualifie comme ça, mais qui échappe absolument à tout contrôle et qui s'appelle le HCSF. Alors c'est un terme un peu technique, mais elle a quand même un impact sur la vie de millions de gens, puisqu'elle a décidé, sans rendre compte à personne, qu'il fallait que des millions de Français ne puissent pas devenir propriétaires, ne puissent pas avoir accès au crédit. Et donc que le Parlement souhaite un tout petit peu contrôler ce qui se passe me semble très positif. Et donc j'espère que cette proposition de loi ira au bout.
Voilà pour le coup de gueule ce soir de Guillaume Autier sur BFM Business. Guillaume Duval, 30 secondes pour terminer. C'est à vous, mon cher Guillaume.
Oui, je voulais revenir sur un sujet que vous avez évoqué dans les informations. Ça concerne la proposition de séparer les rôles de président du conseil d'administration et directeur général chez Total. Je trouve que c'est une excellente proposition. Je pense que si la France a tellement de difficultés sur le plan industriel, tellement de déboires avec ses grandes entreprises, c'est parce que on est les seuls à avoir des PDG tout puissants, capables de manipuler leur CA comme ils le veulent. Si l'Allemagne s'en sort mieux, c'est parce qu'elle ne connaît pas ces choses-là qu'il y a forcément dans toutes les entreprises cette division.
Résolution qui sera présentée. Alors, c'est les actionnaires qui pèsent 0,6% du capital de Total. Résolution qui sera présentée lors de l'AG le 24 mai prochain. On suivra ça, évidemment, sur BFM Business. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés. Guillaume Autier, meilleur taux. Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef de l'Alternatives économiques, et l'économiste Pascal Delima. Merci beaucoup, messieurs. À très vite, avec plaisir. 19h55, c'est fini.
Oui, c'est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne nouvelle, bien sûr, c'est qu'on vous retrouve demain soir.
Bah, évidemment, qu'on se retrouve demain soir, 18h, 19h, pour nouvelles aventures. Dans un instant, François Sorel, Tekkenco, en direct jusqu'à 21h30. Très bonne soirée à toutes et à tous.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.